Oh, Moody's. Oh oui, dégrade-moi. Oh, je vais rembourser ma dette. Oui. Oh, je suis ruiné, moi. C'est Pierre de Saint-Maur.
Ami de Lille, bonjour. Donc, pour fêter ces nouveaux horaires, la SNCF vous invite ce soir à la réunion des amis de là-bas, si j'y suis, de Lille. Ce soir à 20h, donc, au Café Repère L'Imaginaire, dans le Vieux-Lille. Donc, vous prenez un train à peu près vers 15h. Arrivé à 17h, bah, vous patienterez 3 heures en buvant une délicieuse bière de Noël. Et pour le retour, bah, vous devrez attendre peut-être les premiers trains demain matin. OK? Alors bon, maintenant vous êtes prévenus, bah, vous vous organisez, venez nombreux ce soir à 20h au Café Repère L'Imaginaire.
Entendu ce matin aux infos de 8h, l'hydre à deux têtes européen propose un traité. Mais ce sont les actionnaires du fonds créé à cet effet qui donneront leur accord. Pour nous faire passer la pilule démocratique, le président va devoir encore faire des heures et des heures de pédagogie pour nous expliquer que c'est la voie, alléluia, de la sagesse. Quand les créationnistes expliquent l'origine du monde, les médias rient, ici, ils gobent. C'est Noël de Nantes.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Thierry à Orléans, je voudrais réagir par rapport à l'annonce que j'ai entendue vendredi aux actualités de Nicolas Sarkozy qui veut faire passer la règle d'or via un traité européen qui s'impliquerait de fait dans les constitutions de chaque pays signataire. Et voilà, bon, il a trouvé le moyen, n'ayant pas la majorité au Sénat, de ne pas réunir la majorité des 4 cinquièmes des parlementaires en congrès à Versailles. C'est comme ça qu'on change la constitution en France. Donc je pense que son action est anticonstitutionnelle. Et ben, j'attends quand même que l'opposition réagisse. Enfin, voilà, quoi, ça vaut le coup d'en parler et de dire que ce que prépare le président, ben, ça ne tient légalement absolument pas la route, quoi. C'est un espèce de coup d'État. On ne contourne pas la constitution de 58 comme ça. On doit réunir le Parlement en congrès, et si la majorité du 4/5e s'exprime, on change la Constitution. Mais on ne fait pas passer ça par un espèce de contournement européen comme c'est le cas. C'est vraiment absolument scandaleux. Merci et à la prochaine. Salut.
Qu'est-ce que vous avez dû rigoler, les gars, à Athènes, dans cette société Eureka, en vous entretenant avec cette charmante dame? C'était vraiment un bijou. Les bourgeois ne changeront donc jamais. Complètement à côté de la plaque. Après, comment voulez-vous qu'ils comprennent le monde dans lequel les autres vivent? C'est effrayant. Et ça m'a donné une idée de petits conseils modestes et géniaux, j'espère, pour des cadeaux de Noël intelligents, à savoir redécouvrir, si ce n'est déjà fait, les romans sociaux de Jack London. En particulier un roman qui s'appelle Martin Eden, auquel j'ai pensé en écoutant La Dame d'Eureka. C'est l'histoire, un peu, pour simplifier, d'un prolo qui tombe amoureux d'une bourgeoise très cultivée, étudiante en lettres, etc., etc. Et Martin Eden décrit admirablement, ça a été écrit en 1910 à peu près, décrit admirablement cette incompréhension. Redécouvrez les romans de Martin Eden, ils existent en poche, offrez-les, lisez-les, et puis vous verrez aussi Le Talon de Fer, qui était un livre que Trotsky admirait beaucoup. Il y a des choses à prendre dans ces bouquins qui ont plus de 100 ans. Salut, je vous embrasse tous, c'était Anne du Morbihan.
Salut Daniel, ce matin, je suis parti courir comme tous les samedis matins, et j'écoute souvent tes émissions que je podcast. Et là, je réécoutais l'émission que tu avais fait en février ou mars 2010 avec Frédéric Lordon, et si on fermait la bourse, et je trouve vraiment que c'est d'actualité, donc je conseille aux AMG d'écouter ou de réécouter cette émission qui est vraiment édifiante, qui est d'une limpidité pour comprendre la crise financière dans laquelle on se trouve. Salut Daniel, c'était Patrick de Toulouse.
Afin de se faire une opinion un peu plus nuancée que ce que nous racontent les médias dominants sur ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, je voulais signaler deux articles parus dans Le Monde diplomatique du mois de décembre. Un article de Alain Grèche qui s'intitule « Séisme au Proche-Orient de Tripoli à Damas ». Un autre de Patrick Haïmzadeh sur l'état des lieux en Libye. Donc je conseille vivement la lecture de ces deux articles, voilà, deux articles sérieux, documentés et argumentés, sur ce que sont les enjeux réels au Proche-Orient en ce moment et la reconfiguration qui est à l'œuvre.
Eh bien, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec l'équipe du Monde diplomatique et des articles documentés et argumentés, comme chaque mois depuis des années et des années. On se retrouve avec le mensuel Le Monde diplomatique, aujourd'hui avec Serge Halimi, qui va nous parler d'un tas de choses, dont les juntes civiles et le dernier sommet européen. Noël Burgi, qui reviendra sur la Grèce comme un épouvantail pour les autres. Ça fait peur aux autres, donc tenez-vous à carreau les autres. Patrick Hemzadeh, lui, nous racontera comment... il se posera la question de savoir qui a gagné la guerre en Libye. C'est une question un petit peu insolente, parce que pour tout le monde, pour tous les médias, c'est évidemment notre pompeux cornichon BHL qui a gagné la guerre en Libye. Eh bien, ce Patrick Hemzadeh, qui a l'air de connaître assez bien le terrain, a un autre point de vue. Claude Jacquin nous parlera des licenciements boursiers et des licenciements économiques et la comparaison que l'on peut faire avec les deux. Et Martine Bullard, qui revient de Chine, nous parlera de quoi donc ? Et oui, de la Chine. Voilà notre sujet du jour concernant les repères de là-bas, si j'y suis. Vous savez, les repères ont été créés en 2005. C'est une idée qui nous est venue à là-bas, si j'y suis. On a appelé ça les cafés repères de là-bas, si j'y suis. Or, l'idée de café repère a fait son chemin et aujourd'hui, un peu partout, s'ouvrent des cafés repères qui n'ont rien à voir avec là-bas, si j'y suis, et qui sont très malins, ce qui n'est pas bien grave, qui mettent des petits messages dans le répondeur. Alors non, les cafés repères de là-bas, si j'y suis, méfiez-vous des contrefaçons. Oui, on ne va pas interdire aux gens de faire des cafés repères, bien évidemment, mais nous, c'est les cafés repères de là-bas, si j'y suis, on y tient, et c'est des cafés repères où on vient entre soi avec des... et on est ouvert, et à des points de vue différents. C'est pas seulement on ne vient pas évangéliser le petit peuple dans une salle ou dans un bistrot ou dans une salle de cinéma. On discute à plusieurs, on apprend à discuter à plusieurs. C'est long, c'est pas facile pour personne. Et puis, on invente des lieux d'auto-éducation populaire, disons que ces noyaux que sont les cafés repères de là-bas, si j'y suis, je tenais à le préciser aujourd'hui. Voilà. C'est notre heure avec le Monde diplomatique. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
J'ai une question qui s'adresse à M. Xavier Bertrand, ministre de la Santé et du Travail. À votre avis, M. Bertrand, si je dis « Xavier n'est pas plus petit que Laurent », cela signifie A, que Laurent n'est pas plus grand que Xavier, B, que Xavier est plus petit que Laurent, C, que Laurent n'est pas plus petit que Xavier, D, que Xavier est plus grand que Laurent, E, que Laurent est plus petit que Xavier, F, que Xavier n'est pas plus grand que Laurent. Voilà. Et encore une question, Monsieur Bertrand, est-ce que les orthophonistes, vous les kiffez ?
Salut à tous. Un message pour les AMG de Nantes et de sa région. Pour son prochain repère, l'autre repère de Nantes reçoit le lycée expérimental de Saint-Nazaire, des élèves, des profs, avec qui nous poserons la question « Quelle éducation pour quelle société ?» En effet, on se propose de débattre ensemble autour de l'école, de ce qu'elle devient, de ce qu'on aimerait qu'elle devienne. Venez nombreux, c'est ce soir, lundi soir, 12 novembre, à 20h, au Chat Noir.
Salut les gauchias. Écoutez, je suis devant, comment dire, un résultat des intentions de votre premier tour. Alors je me dis, avec toutes les émissions que vous faites, la crise, il faut lutter contre les patrons et compagnie, la droite. Alors je me dis, combien va faire Nathalie Arthaud Nathalie Arthaud, 0%. Philippe Poutou, 0%. Oh, Jean-Luc Mélenchon, peut-être que Jean-Luc Mélenchon, 6,5%. Oh là là. Et attendez, Marine Le Pen, 19,5%. Ah, il y a du travail à faire. Bon, continuez bien. Bon, pour le moment, 0 plus 0 avec la tête à Toto, vous ne pouvez pas faire pire, donc bonne continuation, salut.
Bonjour Daniel, nous avons eu l'occasion de défiler ensemble lors de la commémoration du 17 octobre dernièrement à Paris. Juste pour dire, ici on doit les Algériens, le documentaire de Yasmine Hadi sera projeté ce soir à l'Opéra de Reims à 20h30 avec un débat à la clé, Gilles Manceron, venez nombreux. Merci à l'équipe.
Salut, c'est Daniel Mermet, et la base j'y suis avec le monde diplomatique. Pas si diplomatique que ça.
Flight number 2, arriving from New York.
Voilà, on se retrouve avec autour du numéro du monde diplomatique de ce mois de décembre. Et on va commencer par Serge Halimi, qui signe un papier sur la junte civile. C'est-à-dire qu'effectivement, en Grèce et en Italie, pour l'instant, le pouvoir est occupé par deux figures de la trilatérale. Hein, on sait que ce sont des gens qui viennent de chez Goldman Sachs, qui ont affaire avec la BCE, etc. Mais qui sont des gens qui viennent de la trilatérale. On pourra peut-être évoquer, Serge, ce qu'est la trilatérale, qui s'était inquiétée de l'excès de démocratie dans le monde.
Oui, la trilatérale a eu son heure de gloire dans les années 70. Elle rassemblait un certain nombre d'industriels, de politiques, d'intellectuels. Et à la suite des grands mouvements sociaux qu'on avait connus en France, en Italie et dans les années 60, la trilatérale se disait que les démocraties occidentales étaient devenues ingouvernables. Et elle avait publié un rapport sur l'ingouvernabilité des sociétés occidentales. Ingouvernables pourquoi ? Parce qu'il y avait un certain nombre de groupes sociaux, de minorités raciales, d'organisations féministes, qui avaient en quelque sorte acquis le droit à la parole. Et ça rendait tout beaucoup plus compliqué. Avant, c'était uniquement les décideurs qui décidaient, les industriels qui rencontraient les banquiers, qui rencontraient les hommes politiques et qui annonçaient un certain nombre de lois, de gouvernements, un peu comme en ce moment avec les sommets européens. Mais pendant les années 70, c'était plus difficile parce que les syndicats avaient conquis de nouveaux pouvoirs, parce que les organisations de minorités se faisaient entendre. Et la trilatérale estimait que donc il y avait une crise de gouvernabilité des démocraties parce que trop de gens se mobilisaient dans l'arène, trop de gens se mobilisaient dans la vie civile, et il était important, selon elle, que ça cesse. C'est un rapport qui est important, qui a été publié en 1975, qui avait pour signataire des gens aussi éminents que Samuel Huntington pour la partie américaine, Michel Crozier pour la partie française, et puis il y avait un auteur aussi qui traitait de la partie japonaise. Et on peut dire que 35 ans plus tard, les espoirs, en tout cas les appréhensions de la trilatérale ont été dissipées et la plupart de ces espoirs ont été exaucés puisque le gouvernement en est revenu à ce petit groupe qui avait cru que les choses lui échappaient pendant à la fin des années 60. Et là, je remarque que dans le discours politique, on parle de plus en plus d'union nationale. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est jamais une bonne chose quand on parle d'union nationale. Ça veut dire, le synonyme d'union nationale, c'est la fin du politique. C'est en l'occurrence une union nationale qui est imposée par les marchés, c'est-à-dire par la spéculation, qui est si possible mise en œuvre par des gouvernements d'experts, comme en Grèce et en Italie, pour faire la politique des agences de notation, c'est-à-dire de Moody's, de Fitch et de la Standard & Poor's. Et afin que cette politique soit garantie, qu'on soit tranquille, qu'il n'y aura pas d'interruption, qu'elle sera menée sans relâche, on a donc une union nationale qui verrouille les choses avec des règles d'or et des sanctions automatiques. C'est un peu ce qu'on vient de voir une nouvelle fois lors du sommet de jeudi dernier. D'où l'expression que j'ai employée dans cet édito de junte civile. Dans le même numéro du Diplo, vous avez un long texte d'analyse de Frédéric Lordon qui souligne que ce à quoi nous assistons en ce moment, c'est, je le cite, « le rêve néolibéral d'un ajustement automatique soustrait à la délibération souveraine ». Parce que vous remarquez que la plupart de ces décisions ne correspondent pas aux engagements des gouvernants qui ont été élus. Après tout, Sarkozy était élu pour être le président du pouvoir d'achat, pas pour être le président qui réduirait le pouvoir d'achat, à moins qu'on ait mal compris au moment de la campagne de 2007. Et Lordon, donc, dans le même article, en évoquant des sommets comme celui de jeudi dernier, relève que le syndicat d'initiative éprouve le besoin de renouveler le spectacle à intervalles de plus en plus rapprochés et en proposant des sensations de plus en plus fortes, des nouvelles institutions, des nouveaux pays à sauver, de nouvelles tuyauteries financières, des montants engagés qui sont sans cesse croissants. Et il me semble que effectivement l'accord de Bruxelles, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, comme la quasi-totalité des décisions prises à l'échelle de l'Europe, ça a été une politique très politique, très réactionnaire, qui se proclame fin du politique, mais qui est l'union sacrée pour défendre ceci ou cela, c'est-à-dire l'euro en l'occurrence, et qui, pour défendre l'euro, prévoit sans cesse davantage de rigueur, d'austérité pour le plus grand nombre, et aucun prix à payer pour les responsables de la crise.
Ce qui se passe quand même, Serge, c'est que ce soit Papademos et Noël Burgi va parler de la Grèce, ou Monti en Italie, les sondages leur sont très favorables, notamment Monti.
Oui, les sondages leur sont favorables, mais pour une raison qui est assez simple, qui a d'ailleurs été évoquée par Nicolas Sarkozy lors de son dernier discours de Toulon, dans la phrase qu'il a reprise à plusieurs reprises, la peur est revenue.
La peur est revenue.
Nicolas Sarkozy.
Cette peur qui détruit la confiance.
1er décembre 2011.
Cette peur qui paralyse les consommateurs. Cette peur qui empêche l'investisseur d'investir, l'entrepreneur d'entreprendre, le patron d'embaucher, le banquier de prêter. Cette peur porte un nom. C'est la peur pour la France de perdre la maîtrise de son destin. La seule façon de conjurer cette peur, c'est une nouvelle fois de dire la vérité. La vérité, c'est que la crise n'est pas finie et qu'il ne peut pas y avoir de projet politique qui ne procède d'un diagnostic de la crise et de son ampleur. Nier la crise, c'est s'interdire toute perspective d'avenir.
On crée un sentiment de peur, de chaos, en disant peut-être que à la fin de l'année, il n'y aura plus d'euros. Donc les gens se demandent ce que deviennent leurs économies qui sont calculées en euros. On leur dit que ce qui se passe en Grèce pourrait arriver demain à l'Italie et puis après-demain à la France. Donc face à cette situation qu'ils ne comprennent pas, parce que bon, vous avez l'occasion, comme moi, de parler à des gens qui ne sont pas économistes, ils sont complètement dépassés.
Je peux me parler à moi-même.
Oui, même. Ils sont complètement dépassés par ce qui intervient. Qui comprend les contrats d'assurance, les CDS, les primes qui justifient des sommets, qui justifient des paniques financières qui provoquent les décisions gouvernementales? Donc il y a cette espèce de sentiment qu'on ne peut rien faire d'autre que de confier son destin aux experts. Le seul problème, c'est que les experts, ils ne sont pas nommés par les confédérations syndicales espagnoles, italiennes, allemandes ou françaises, mais ce sont des gens qui sont eux-mêmes des banquiers, qui ont eux-mêmes été des employés de Goldman Sachs, qui a été quand même une entreprise qui a beaucoup profité de la crise dont elle avait été la principale responsable, et qui estime que pour résoudre les problèmes de la crise, il faut faire payer les salariés et épargner les banques. Parce que si vous remarquez l'accord qui est intervenu jeudi dernier, vous remarquez qu'il y a dans cet accord un point qui est très intéressant, qui dit, je cite, que le secteur privé ne sera plus mis à contribution en cas de restructuration de la dette d'un État, comme cela fut le cas pour la Grèce. L'engagement est réaffirmé sans ambiguïté dans le traité. Donc l'un des points de l'accord consiste à dire que avoir fait payer les banques pour une partie de la dette grecque fut une erreur, parce que ça a affolé les marchés financiers, et donc vous avez les gouvernements démocratiques qui s'engagent à ne plus faire payer les banques. Et Dieu sait qu'on les a très peu fait payer. Mais dans le cas de la Grèce, on leur a plus ou moins demandé, disons instamment, de renoncer à la moitié de leur dette. C'était une demande allemande, d'ailleurs, à laquelle s'opposait la France. Vous savez que la politique financière française est pilotée théoriquement par François Baroin, qui est le ministre des Finances, mais en réalité est très largement guidée par Michel Pébreau, qui est l'ancien président de la BNP Paribas. Donc vous avez une politique qui a été pilotée par des responsables des banques et qui a eu pour résultat d'exonérer les banques de toute responsabilité dans la crise dont ils sont pourtant les principaux responsables.
Il faut rappeler que les banques françaises sont très impliquées dans la crise grecque.
Absolument, dans la crise grecque. Les banques françaises ont prêté pour les dettes souveraines dans la plupart des États. C'était un bon rendement pour elles et un rendement qui était absolument garanti. Et là, au lendemain du sommet, vous avez une déclaration de Valérie Pécresse, qui est la ministre du Budget et qui est aussi la porte-parole du gouvernement français, qui a dit, je cite, « Ce que nous voulons, c'est donner plus de crédibilité à l'euro, c'est avancer dans la voie de la stabilité de la discipline budgétaire et surtout rassurer les investisseurs. Rassurer les investisseurs, c'est notamment leur dire que plus jamais nous ne ferons appel aux capitaux privés lorsqu'il y aura un pays en difficulté. » Vous avez quand même cette... cette situation extraordinaire. Vous avez un ministre du budget qui est de fait le porte-parole du lobby bancaire. Donc l'un des points de l'accord, c'est que le secteur financier, le secteur privé ne sera plus mis à contribution. Mais l'une des autres étrangetés de l'accord, puisqu'on a beaucoup souligné le fait que le Royaume-Uni a refusé de s'associer à cet accord. Vous vous souvenez qu'au moment où il y avait eu le précédent sommet entre Sarkozy et Merkel, ils avaient débouché sur la conclusion qu'il fallait imposer une taxe sur les transactions financières. Et très vite, on avait appris que malheureusement, le Royaume-Uni s'y opposait. Eh bien, puisque le Royaume-Uni n'est pas dans cet accord, on aurait pu imaginer qu'allait y figurer cette taxe sur les transactions financières. Que croyez-vous qu'il arrivera? Je pense que tous les auditeurs savent, quand on pose la question, que naturellement, il n'y a pas de taxe sur la spéculation financière dans cet accord. En d'autres termes, si vous voulez, ça fait des décennies que le capitalisme financier estime, à l'échelle internationale, que les politiques sociales européennes, qui ont été arrachées par le mouvement social, pendant un siècle, sont trop généreuses. Eh bien là, la crise et la peur est revenue, dit Sarkozy, permettent justement de servir de levier pour démanteler des éléments essentiels de cette politique sociale. Alors, on va voir comment ça se passe en Grèce. Mais il faut voir que c'est une chose qui est comprise par les dirigeants européens, les dirigeants les plus libéraux. Cette crise est une chance. Vive la crise. Utilisons ce levier. Récemment, le Premier ministre hollandais a eu cette déclaration très intéressante. Il disait « Il ne faut jamais gâcher une crise ». C'est l'occasion pour les pays du Sud de réformer leur économie. Ils ne l'ont pas fait dans le passé. Je veux que la pression des marchés continue à les y obliger. Regardez ce qui s'est passé en Grèce. Un nouveau gouvernement. En Italie, un nouveau gouvernement. On a même un président français qui parle à la télévision pendant 45 minutes pour dire qu'il faut que la France devienne davantage comme l'Allemagne. Est-ce que vous auriez pu imaginer une chose pareille il y a seulement 2 ans? Inconcevable. Fin de citation du Premier ministre hollandais. Donc vous voyez, ils ne dissimulent pas leur jeu. C'est vraiment la crise. Et de fait, jeudi 8 décembre, on a appris que l'Italie du gouvernement d'experts, apolitique, de Mario Monti, venait de décider de relever de 10 centimes par litre le prix de l'essence, désormais fixé à 1,70 €, de faire passer le taux réduit de la TVA de 10% à 12%, le taux normal de 21% à 23%, et de ne plus indexer les retraites sur l'inflation. Ce qui, cette année, fera perdre 3,4% aux retraites. Vous voyez, dans tous les paquets d'austérité, de rigueur pour réduire la dette qui sont proposés, la quasi-totalité des mesures frappe les salariés et la plupart, pour ne pas dire toutes, épargne les banques.
C'est l'argent qui gouverne, là. C'est l'argent qui a besoin de plus d'argent. C'est ça, la dictature du capital.
J'aimerais bien avoir un petit peu, quoi. Juste suffisamment pour, tu vois, pour...
Le vrai pouvoir, c'est le capital qui exige de faire plus d'argent.
Je cracherai pas dessus, quand même. Non, si j'en ai beaucoup, j'en donnerais beaucoup.
C'est la domination du travail mort sur le travail vivant.
Tout de suite les grands mots.
Et oui, c'est la mort qui est à l'œuvre dans le capital. Et j'ai le sentiment qu'avec le capital, il en va de même. Cette course à toujours plus d'argent, l'argent qui exige plus d'argent.
Voilà, on continue avec le diplo du mois de décembre, avec Noël Burgi, qui parle de la Grèce. Toute la semaine dernière, on a parlé de la Grèce dans la base Si j'y suis. Et quelqu'un nous a dit, ah oui, nous les Grecs, on est comme les canaris dans la mine. On mettait des canaris, jadis, dans les mines. Et quand le canari cessait de chanter, était malade ou mourait, il fallait vite sortir de la mine parce qu'il y avait des gaz nocifs. Est-ce que c'est la comparaison que vous feriez, Noël ? La mine étant l'Europe, là, en l'occurrence, et la Grèce, le Canari.
Bien sûr. La Grèce est l'exemple sanglant de ce qui risque d'arriver aux autres s'ils ne se plient pas aux mesures dictatoriales, il faut le dire, qui sont demandées à l'ensemble des pays, c'est-à-dire l'austérité sélective. Voilà. Alors, je voudrais vite reprendre quelque chose qu'a dit tout à l'heure Serge, c'est que Le soutien au nouveau gouvernement technique de Papademos, qui a pu sembler ici être important, n'est pas si important que ça. D'abord, les sondages sont parus dans des journaux qui ont soutenu le mémorandum, qui soutiennent la Troïka, et des journaux très conservateurs comme Kathimerini, quoique, bien sûr, aussi critiques du gouvernement, de l'ancien gouvernement Papandreou. Mais si vous interrogez les gens, et moi, depuis, j'ai interrogé les gens, d'abord, sont totalement...
Désemparés.
Ils sont non seulement désemparés, ils sont angoissés, ils sont contraints par des problématiques de survie permanentes, ils sont vraiment dans la survie. Et donc, c'est leur première préoccupation. Mais la seconde, c'est qu'ils vivent depuis un peu plus d'un an maintenant des transformations cauchemardesques. Ils sont exposés à l'arbitraire et aux transformations constantes des politiques économiques, sociales, fiscales. Ils ont vu leur revenus disponibles diminuer de plus de 50% pour la grande partie. On est en train de parler là des salariés, du public comme du privé. On est en train de parler des pensionnés, enfin des retraités. Et on parle également quand même aussi des petits commerçants qui n'arrivent pas à survivre là-dedans. Et vous voyez les boutiques qui ferment les unes après les autres, bon, et qui donc ne sont pas salariés, mais néanmoins qui subissent cette crise. Donc déjà du point de vue des revenus, mais si vous regardez tout le reste des éléments qui donnent un minimum de prévisibilité et de stabilité dans la vie quotidienne, l'accès aux soins, les écoles, tout ça est en train d'être totalement détruit. Donc, ce n'est pas un hasard si finalement ce soutien n'est pas si important que ça, hein, le soutien au gouvernement technique.
Que peut l'opposition en Grèce ? On a l'impression que... Il y a un parti communiste assez fort en Grèce, même très fort, et il y a une gauche radicale assez forte. En tout, on estime que l'opposition constitue à peu près 30% en Grèce. Et puis, il y a tous ces mouvements, les Grecs sont plutôt des gens politisés, il y a tous ces mouvements anarchistes aussi de tout un tas de variétés. Et tout ça, ça fait une scène politique assez riche, mais on n'a pas l'impression... que l'opposition arrive à quoi que ce soit. On a l'impression que les Grecs ne trouvent pas pour l'instant de débouché politique à cette crise, comme si ils comprenaient pas tout à fait d'où ça vient, et certainement ils ne comprennent pas non plus où ça va, à part effectivement à travers leur vie quotidienne.
Écoutez, bon, l'opposition, elle n'est pas suffisamment forte, ça c'est clair, ils ne sont pas suffisamment unis ni forts pour pouvoir constituer, canaliser, si vous voulez, le mécontentement. Mais il y a des raisons qui sont plus profondes à cette histoire-là. La Grèce est un pays, la Grèce moderne, celle qui sort de la guerre d'indépendance en 1830. Cette Grèce-là est un pays qui a beau avoir été dans l'Antiquité le berceau de la démocratie, est un pays qui n'a pas... de structures démocratiques substantielles. C'est-à-dire qu'ils ont des structures démocratiques aujourd'hui, avant ils ont eu aussi la dictature, la monarchie absolue, etc. Mais aujourd'hui, si vous pensez à la démocratie, comment elle fonctionne, c'est une démocratie qui est totalement formelle. Il n'y a jamais eu de culture politique qui ait pu donner de substance à la démocratie. Les élites elles-mêmes ont été fascinées par les modèles étrangers. Et donc, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que les Grecs n'ont jamais véritablement développé de perspectives politiques alternatives où, lorsque c'était le cas, les puissances étrangères dont dépendait le pays, qui a toujours été un pays dépendant des puissances étrangères depuis son indépendance, se sont débrouillées pour museler. Hein, les appels à la démocratie. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la seule alternative qui paraisse crédible pour les gens sur place, c'est éventuellement de développer une autonomie locale. Mais l'autonomie est impossible dans ce pays. Pourquoi ? Parce que nous sommes en présence d'un pays qui est hyper centralisé, qui est très autoritaire, qu'il est...
La moitié ou presque des Grecs habitent à Athènes, oui.
La moitié des Grecs habitent à Athènes, mais même quand on habite à Salonique, on est dépendant d'Athènes, si vous voulez, du centre politique. Si vous voulez, cette centralisation autoritaire remonte aussi historiquement à la manière dont s'est soldée la guerre d'indépendance, c'est-à-dire qu'on a plaqué des structures politiques artificielles, qui étaient des structures politiques importées de l'étranger, sur un pays... traditionnel, local, agraire. Donc, si vous voulez, cette juxtaposition a permis le développement de relations de clientèle. En fait, le clientélisme aujourd'hui en Grèce qui plonge des racines très très profondes dans l'histoire, forme, je dirais, la texture du système politique grec. Donc, il n'y a pas de séparation des pouvoirs et il n'y a pas d'autonomie locale. Et ce qui fait que, si vous voulez, les citoyens sont très démunis devant l'arbitraire du pouvoir. Comment voulez-vous, si vous n'avez pas de culture politique, si vous n'avez pas de structure autonome, une société civile qui soit relativement autonome quand même de l'État, qui n'a pas pu se développer, si vous êtes une économie périphérique dépendante, qui l'a toujours été, comment voulez-vous imaginer un modèle politique alternatif ? Et c'est pour ça que, d'ailleurs, dans mon article, je cite Linas, qui est un intellectuel, un psychologue qui travaille à l'université Aristote de Salonique, et qui dit, de façon ironique, ce que veulent les Grecs, en fait, c'est revenir à 2007. C'est revenir à l'avant-crise, au moment où on vivait tous dans le mensonge.
Mais dans la crise actuelle, dans la souffrance des Grecs actuels, quelle est la responsabilité dans cette histoire des Grecs, de la Grèce elle-même, de cette gestion calamiteuse des gouvernements successifs, corruption, détournement, etc. Les causes intérieures et les causes extérieures.
Écoutez, il y a effectivement des causes intérieures au sens...
La chanson a été celle de Nicolas Sarkozy, de Madame Merkel, ça a été de dire « c'est de la faute des Grecs ». Ils ont une gestion calamiteuse, ils sont feignants, etc. Il leur plaît pas quand on arrive d'ailleurs là-bas. C'est la première chose qu'ils disent aux journalistes étrangers. Ne dites pas que nous sommes des feignants.
Ils sont pas des feignants. Ils travaillent très très dur, la plupart des Grecs. Écoutez, il y a des causes intérieures. La Grèce, d'abord, n'aurait jamais dû entrer dans l'euro. Tout le monde le sait. On a beau le dire aujourd'hui. À l'époque, on le savait déjà. C'est-à-dire que les élites européennes le savaient. Ils ont laissé faire. Ils n'avaient pas les moyens, la capacité. Bon. Le gouvernement, et en particulier le précédent gouvernement conservateur, porte une lourde responsabilité dans l'augmentation de la dette. On ne va pas dire que les Grecs ne portent aucune responsabilité dans ce qui leur arrive aujourd'hui. Ça, c'est une chose. Bon. Est-ce que pour autant, il faut enfoncer le pays ? Et c'est ça la question aujourd'hui. Parce que, si vous voulez, s'il y avait de la solidarité européenne, si on avait réglé le problème de la dette en 2010, non seulement il n'y aurait pas un problème européen, la crise n'aurait pas été aussi vaste, et la Grèce aurait été sauvée. C'était pas très très compliqué à faire. Donc, c'est très difficile de partager les responsabilités. Il y a une part de responsabilité des autorités grecques, c'est clair. Les Grecs eux-mêmes ont joué ce jeu-là, ils ont été encouragés à recourir au crédit, etc. Bon, c'est vrai dans d'autres pays également. Est-ce que la population porte la responsabilité ? Je crois que non. On ne peut pas dire que la responsabilité appartient à la population, mais c'est elle qui paye, et qui paye très cher.
I'd like to talk to you about democracy. Real democracy. But first this mask. I call this mask of the ghost of free speech. Political correctness has taken your free speech away from you. It has taken my free speech away from me.
Η δημοκρατία σαν λέξη, σαν έτοιμη γορία. Βάξιζεται πάνω στη λαϊκή κυριαρχία. Πρώτα η πλειοψηφία αποφασίζει και ενεργεί. Αν είναι έτσι, γιατί υπάρχουν τόσοι φτωχοί. Μη μπερδεύεσαι, οι πιο αμόρφωτοι πάνω στη γη. Αυτοί που λες κι αζούς που έχουν πνεύμα δουλειτό. Ότι πολίτευμα αν υπήρχε, θα θέλα ψωμί. Μα δημοκρατικά απέκτησαν το μικρό αστυνομικό. Ζω σε μια χώρα που δολοφονικά δημοκρατεί. Δημοκρατικά μου κάνουν πλήση εγκεφαλική. Βαφτίζουν τρομοκράτη όταν σκέφτομαι πολύ. Και τολμώ να πω αυτά που πιστεύω. Τολμάς εσύ. Δεν ψηφίζω γιατί οι εκλογές μου φαίνονται ανούσιες. Δεν θέλω να με εκπροσωπούν με αποφάσεις σε κούσιες. Δεν είμαι απολύτικο όν. Δίνω να μπουν στο παιχνίδι αγοροπολισία συνειδησεών. Φωνάζω. Φωνάζω στη δημοκρατία. Μα μην βιαστείς να με παρεξηγήσεις. Σκέψω αν αυτό που ζεις είναι μια ουτοπία. Κι ίσως στο τέλος μαζί μου να συμφωνήσεις. Φωνάζω στη δημοκρατία. Μα μην βιαστείς να με παρεξηγήσεις. Σκέψω αν αυτό που ζεις είναι μια ουτοπία. Κι ίσως στο τέλος μαζί μου να συμφωνήσεις.
Alors maintenant, un tout autre sujet dans le monde diplomatique de ce mois de décembre, sur les licenciements boursiers. Alors ça, c'est une chose qui nous... on l'a compris, et c'est mal, le licenciement boursier. Tout le monde est contre. Tout le monde est contre le licenciement boursier. Mais par voie de conséquence, on aurait tendance à accepter donc que le licenciement dû à des raisons économiques, de restructuration et de modernisation finisse par être acceptable. Qu'est-ce que vous en dites, Claude Jacquin?
Bien, tout simplement, c'est pas un autre sujet. Ce dont on parle, c'est également de la crise qui s'annonce avec les récessions fortes en Europe, vont provoquer de très importants mouvements de restructuration, de réorganisation, de licenciements, et par conséquent, il y a un lien entre cette question des licenciements et les sources de cette crise. Qui doit payer la crise? Qui peut payer la crise? Et quelle en est la source et l'origine? Alors c'est tout à fait normal que cette question des licenciements ressurgisse aujourd'hui parce qu'elle va être profondément d'actualité à nouveau. Et donc la question qui doit être réglée, y compris dans les débats qu'il pourra y avoir pendant la campagne présidentielle, c'est comment protéger les salariés en cas de licenciement, de perte d'emploi, de réorganisation de leur entreprise, voire même de cessation d'activité de leur entreprise. Alors, le licenciement boursier peut exister. La loi, d'ailleurs, l'interdit sous l'autorité, la haute autorité de la Cour de cassation. Il n'est pas possible de licencier simplement pour augmenter son profit. Donc la loi l'interdit. Le problème, c'est que la frontière est assez floue entre un licenciement qui serait ouvertement réalisé pour augmenter son profit et ce que la loi admet, un licenciement pour cause de défense de la compétitivité de l'entreprise. Donc entre les deux, le sens n'est pas très très clair. Les juges ne sont pas toujours forcément compétents pour trancher. En réalité, boursier ou pas boursier, entreprise cotée ou pas cotée, les licenciements économiques sont dus d'abord à la compétition et à la concurrence. Et qu'aujourd'hui, et a fortiori demain, la crise va en fait provoquer non seulement des licenciements, mais un accroissement du chômage, un accroissement de la misère, un accroissement de la désespérance sociale dans nos sociétés. Et par conséquent, ce dont on parle, c'est pas simplement d'une réorganisation du marché du travail, un peu comme lorsqu'on secoue un sac de billes et que les billes se remettent en place vertueusement à l'intérieur du sac. Ce dont on parle, c'est un coût social qui est évidemment énorme, puisque contrairement à ce que disent les entreprises, ils disent que les plans sociaux leur coûtent très cher. Bon, d'abord, c'est pas franchement vrai. La réalité aujourd'hui, c'est que nous payons collectivement les licenciements, parce que nous payons collectivement à la fois le chômage, la misère et la désespérance sociale dont je parlais il y a un instant. Alors, par rapport à ça, le débat sur quel type de licenciement, licenciement boursier ou pas, peut être aussi un moyen d'évitement de la question essentielle de la cause des licenciements. C'est-à-dire que si je dis que la chose la plus scandaleuse, c'est le licenciement boursier, c'est-à-dire le licenciement pour augmenter ses profits, bien, je semble dire aussi que finalement la maladie du capitalisme, c'est la spéculation financière, c'est simplement l'ingénierie financière.
C'est-à-dire que si on supprimait ça, ce serait
voilà.
Bien.
C'est-à-dire que l'économie de marché reviendrait à un fonctionnement finalement vertueux. Bon. Alors qu'en réalité, la grande masse et la très grande masse des licenciements ne sont pas dus à un jeu simplement d'actionnariat et de places boursières, mais sont dus à la compétition entre acteurs de l'économie de marché, etc. Et par ailleurs, c'est ce que je signale dans l'article, c'est que par le biais, y compris des sous-traitances en cascade, eh bien, une masse de licenciements relève effectivement au départ d'un acte stratégique d'un grand groupe, d'une grande société, mais ça peut avoir pour conséquence la fermeture d'une boulangerie, la fermeture, l'arrêt d'activité d'une PME, et donc là, évidemment, ces gens-là sont exclus, en fait, aujourd'hui, du système de protection. Ce qui fait qu'il y a une inégalité totale des salariés face à cette loi, en réalité, et c'est pour ça que la question des sous-traitances en cascade ou bien des dépendances mutuelles est très importante, puisque, par exemple, si une grosse entreprise ferme une activité, on peut supposer qu'un certain nombre de ses salariés auront une indemnité d'un certain niveau, peut-être d'une politique de reclassement quelque part, mais tous ceux qui travaillent à la périphérie de cette activité, dans des PME, chez des artisans, chez des sous-traitants, n'auront pas les mêmes niveau de protection parce qu'ils appartiennent à une autre société, peut-être de moins de 50 salariés, peut-être une petite entreprise qui n'a pas les moyens. Donc il y a là une profonde inégalité. Et donc je voudrais insister sur deux choses. La première, c'est que la question des licenciements ne doit pas être le terrain d'une mauvaise lecture du fonctionnement économique. Ce ne sont pas partout les marchés financiers spéculateurs qui commandent la réorganisation des entreprises. C'est fondamentalement, plus sérieusement, plus structurellement, depuis plus longtemps, l'économie de marché au sens de la compétition et les effets de la compétition sur nous tous et sur nos sociétés. Et d'autre part, le seul moyen de faire que les salariés sont traités à égalité de traitement dans leur perte d'emploi, c'est effectivement une assurance sur leur reclassement et sur leur maintien de salaire, une assurance qui les toucherait tous, c'est-à-dire aussi bien le salarié d'un grand laboratoire pharmaceutique qui fait une très grosse marge que le salarié du boulanger du coin qui va fermer parce que une grande surface vient d'ouvrir un point de vente de pain à 200 mètres de cela. Alors, dès lors que l'on pose ce problème de l'égalité de la protection des salariés face à la perte de leur emploi, ce qui d'ailleurs correspond au droit constitutionnel du droit à l'emploi, tout simplement. Dès lors que l'on pose ce problème, la dernière question qui reste à résoudre, c'est qui paye ? Qui paye ? Or, jusqu'à présent, tous ces débats-là tournent autour, finalement, c'est la collectivité qui paye. Bon, c'est la collectivité qui paye, et pas du tout le secteur compétitif, le secteur privé, l'économie compétitive, c'est nous qui payons l'essentiel. Et par conséquent, il y a déjà des modèles là-dessus. Il ne faut pas penser que ce genre de réflexion soit particulièrement novatrice. Lorsque, par exemple, dans l'indemnisation des accidents du travail, eh bien, le Code de la sécurité sociale dit que cette indemnisation est à la charge uniquement des employeurs. Donc on sait qu'il peut y avoir un système où seuls les employeurs, seules les entreprises du secteur compétitif peuvent apporter leurs fonds pour satisfaire à cette exigence sociale. Pourquoi ne pas le faire sur les licenciements dès lors que dans cette affaire, les salariés sont les otages, je le répète, d'une compétition entre les entreprises.
Vous êtes tous virés. Pauvre con du premier au dernier.
Les bénéfices, c'est vrai, c'est grâce à vous qu'on les a faits, grâce à vos efforts conjugués de pauvres cons. Mais il faut pas tout mélanger d'argent.
Martine Bullard, on continue avec le Diplo de ce mois de décembre avec un papier dans les blogs du Diplo sur la Chine. Mais ce que vient de dire Claude Jacquin, là, est-ce que ça a du sens pour un salarié chinois ?
Ça a du sens parce que dans la loi chinoise, théoriquement, il est indemnisé. Le problème de la Chine, c'est pas tellement d'avoir des lois, c'est que les lois soient appliquées. Or, le problème, c'est que ces lois ne sont pas appliquées parce qu'il n'y a pas coupure entre le système politique et le système judiciaire. Donc, on n'arrive pas à avoir une application toute simple de la loi. Je viens de rentrer, effectivement, de Chine et j'avais fait un papier sur le site du Monde Diplomatique où, effectivement, on est dans une société dynamique. C'est pas la société grecque, évidemment. C'est pas les sociétés européennes avec les énormes difficultés qu'on connaît. Mais c'est en même temps une société extrêmement inquiète. Et la phrase que j'ai entendue le plus souvent au cours de mes rencontres en Chine, y compris de hauts cadres du Parti communiste chinois, c'est « on ne sait pas où on va ». Et ça, c'est relativement neuf, parce que c'était une société qui était sûre d'elle-même jusqu'à présent et qui pensait qu'elle irait loin très vite. Or là, elle commence à être inquiète. Il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons économiques, des raisons sociales, des raisons politiques. Les raisons économiques, c'est la baisse des exportations. Les principaux marchés de la Chine sont les pays occidentaux, l'Europe et les États-Unis. L'Europe étant en crise et la plupart des experts que j'ai rencontrés en Chine s'attendant à une crise accrue de l'Europe. Pas tort, hein, comme on vient de le voir. Donc, pense que les exportations vont continuer à chuter. Et ça, naturellement, ça les inquiète, même si les exportations n'étaient plus, contrairement à ce qu'on dit souvent, n'étaient plus tout à fait le premier moteur de la croissance chinoise. Le deuxième moteur de la croissance chinoise, c'était les investissements publics. Donc, il y a eu un grand plan de relance, vous vous rappelez sans doute, au mois de novembre 2008, hein, et avec énormément de fonds publics versés dans toute la Chine, mais avec un gâchis du capital absolument invraisemblable, de telle sorte, enfin, il y a l'exemple le plus connu, c'est l'exemple de cette ville artificielle construite en Mongolie intérieure, une ville absolument formidable, avec une énorme bibliothèque, des milliers de logements, un centre culturel, enfin tout, une énorme école, une université, etc.
C'est totalement vide. Martine, pour décrire une ville formidable, elle commence par la bibliothèque.
Mais c'était aussi parce que eux-mêmes mettaient l'accent d'ailleurs là-dessus, c'est curieux. Et c'est une ville vide, mais vide. Il n'y a pas un seul habitant. Bon, l'exemple est connu, il a fait un scandale en Chine quand même.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a là, alors c'est le deuxième gros morceau, c'est la corruption, c'est-à-dire qu'il y a eu des fonds publics versés, des banques qu'on prêtait, les dirigeants du parti en ont pris une partie, et puis surtout on distribue autour d'eux avec le bâtiment. Il n'y a pas qu'en France qu'il y a de la corruption avec le bâtiment et les travaux publics. C'est énorme. Et puis, ils n'ont pas réussi à vendre ces milliers de logements aux nouveaux riches. C'est le troisième aspect, c'est que maintenant, il y a des banques qui commencent à avoir des grosses difficultés avec vraiment une crise, début de crise financière, début de bulle immobilière qui se dégonfle et de crise financière qui commence à se mettre en place. Donc il y a énormément d'inquiétudes de ce point de vue-là. Et il y a un troisième élément du point de vue économique qui pose problème, c'est les délocalisations, parce que depuis 3 ans, les salaires en Chine ont augmenté. Et c'est si vrai que les directions d'entreprise des multinationales occidentales qui étaient implantées du côté sur la côte, eh bien, commence à se délocaliser vers le Vietnam. J'ai rencontré, que j'étais à Taipei, on verra un peu plus tard, j'ai rencontré un dirigeant un haut cadre d'une entreprise qui fabrique des écrans plats et qui vient de décider de scinder en deux son entreprise et d'aller au Vietnam où il y a là aussi une main-d'œuvre qualifiée, moins chère qu'en Chine, et donc il y a des délocalisations. Et la riposte, si je puis dire, du gouvernement chinois est de favoriser les délocalisations à l'intérieur, de l'intérieur. C'est-à-dire, il propose aux entreprises un vrai pont d'or en disant « mais ne partez pas au Vietnam, venez donc à l'intérieur de la Chine ». Et donc, on licencie les salariés qui sont à Canton et on va implanter les entreprises qui du côté de Chongqing, où là, ils rebénéficient des bas salaires, de la fiscalité, etc. Donc, il y a eu énormément de mouvements tout au cours du mois d'octobre, novembre, de ces salariés qui, d'une part, se sont retrouvés soit licenciés, soit tout simplement les bulletins de commande. C'est quand même extraordinaire. Les bulletins de commande étant en baisse, eh bien, on diminue les salaires. C'est-à-dire que des gens qui avaient des salaires 15 000, 14 000, 18 000 yuans sont retrouvés avec des salaires à 1 000 yuans. Ah. Du jour au lendemain. Mais ce qui est neuf, c'est que, effectivement, cette génération sait s'organiser. Elle se bat et donc elle réclame des salaires. Et effectivement, il y a énormément de mouvements sociaux qui se développent et qui inquiètent une autre partie de la population. La deuxième chose qui est la source des mouvements sociaux en Chine, c'est la corruption. vous ne pouvez pas rencontrer mais vraiment un haut cadre, un cadre moyen, un chauffeur de taxi, un vendeur de soupe de nouilles, sans qu'on vous parle de la corruption. C'est devenu massif, c'est devenu un problème majeur désormais pour les directions chinoises, puis même dans la presse officielle. Je cite dans mon blog le patron du département de communication de la plus grande université chinoise, qui dans la presse officielle chinoise dit c'est plus possible, les inégalités, la corruption grimpe, les inégalités augmentent, on a un doublement des inégalités en Chine, et si on ne fait pas quelque chose, si le congrès du Parti communiste chinois ne fait pas quelque chose, on va avoir un système des indignés. Prenez la comparaison, il rentrait des États-Unis, donc il comparait les indignés de New York, et il disait on va avoir des indignés à la chinoise, et il faut absolument, il avait cette phrase extraordinaire, il disait les fruits de la croissance se concentrent toujours plus entre les mains d'une petite minorité, ce sont les élites qui dirigent les banques, les affaires, l'industrie des médias, les universités, et qui se trouvent dans les hautes sphères du pouvoir. Et il disait il faut absolument qu'on ait comme mot d'ordre pour le prochain congrès du Parti communiste chinois le peuple avant tout. Et c'est significatif du débat quand même qu'il y a à l'intérieur de la société chinoise.
On va finir avec le diplôme de ce mois-ci. Ça, c'est un papier de Patrick Hemzadeh sur la Libye. Et Patrick s'interroge, qui a gagné la guerre? Et pour tout le monde, on sait qui a gagné la guerre. Patrick sait, évidemment, c'est BHL. Et ça, après un voyage là-bas, après un reportage là-bas, c'est pas tout à fait votre point de vue.
En fait, en Libye, sur le terrain, qui a gagné la guerre, c'est... Il y a des gens qui ont gagné la guerre, bien sûr. C'est ceux qui sont positionnés contre Kadhafi au départ. Et c'était quand même loin d'être toute la population. Donc ce que j'essaye de montrer, c'est que contrairement justement au discours, je dirais, idéologique de Bernard-Henri Lévy et de beaucoup de gens ici, ou alors bâti sur l'émotion brute, c'est-à-dire sauver des populations civiles, etc., sauver le peuple libyen, ce qu'on nous a servi pendant 6 mois, on a eu quand même 2 camps, et des gens qui se sont battus contre le CNT, pas uniquement parce qu'ils étaient pour Kadhafi, mais tout simplement parce qu'ils étaient contre leur voisin, ou ils percevaient une menace de la ville voisine ou du village voisin. Donc ce déplacement en Libye, ça m'a confirmé dans cette idée qu'on avait affaire à une guerre civile et qu'on a choisi un camp plutôt que l'autre. Donc c'est ce camp, en l'occurrence, qui a gagné. Maintenant, si on va un petit peu plus loin, on voit que ce CNT, qu'on a reconnu aussi très vite comme représentatif du peuple libyen, il l'est beaucoup moins. Puisqu'en fait, il a été nommé le 27 février, 10 jours après le début de l'insurrection. Il compte 51 membres. Et la plupart de ces membres ne sont toujours pas, les identités ne sont toujours pas connues. Alors au début, vous vous souvenez, on nous disait, ils sont cachés parce qu'ils sont dans les zones tenues par Kadhafi. Mais en fait, même maintenant, les Libyens ne les connaissent toujours pas, la majorité d'entre eux. Donc, on peut s'interroger sur la représentativité réelle de CNT, qui a été quand même reconnue dès fin février par Nicolas Sarkozy, et ce CNT qui a nommé un Premier ministre, qui est quelqu'un qui vient de l'étranger, et un gouvernement de technocrates, là aussi c'est un peu comme partout, ce sont des technocrates, pour la plupart, qui viennent de l'étranger, principalement d'Amérique et de Grande-Bretagne. Donc voilà, je dirais dans un premier temps, si on prend le prisme du contrôle des ressources, c'est ces gens-là finalement qui ont gagné. Maintenant, le peuple, après, il y a les gens qui se sont battus, ça on voit dans beaucoup de révolutions, qui pensent avoir gagné. Je pense qu'on verra ce qu'ils vont devenir, mais ils détiennent les armes, ils détiennent le pouvoir sur le terrain, mais on peut imaginer que, moyennant finance, ils seront réintégrés dans des structures paramilitaires ou militaires, ce qui me fait dire que, quelque part, la Libye post-Kadhafi risque de ressembler sans Kadhafi à la Libye de Kadhafi, quoi. C'est-à-dire une petite minorité qui contrôlera la rente pétrolière, les ressources économiques, et puis surtout les soutiens étrangers. Ça, c'est très important. C'est très important, toujours on en revient aux banques, parce qu'actuellement, il y a toujours plus de 100 milliards d'avoirs libyens gelés dans les banques étrangères. Et en temps de crise en ce moment, on voit bien que c'est un levier de pression énorme des banques qui n'ont pas l'intention de, bien sûr, de restituer cet argent immédiatement. Et le contrôle de ces ressources financières va bien sûr conditionner le pouvoir du groupe qui se maintiendra dans les prochains mois.
Merci à tous, Patrick Mzadeh, Martine Bullard, Claude Jacquin, Noël Burgi et Serge Halimi, l'équipe du Monde Diplomatique. Ne pas louper les autres papiers, il y en a beaucoup d'autres dans le numéro de ce mois de décembre, dont le papier de Frédéric Lordon, cité par une auditrice, sur le toboggan de la crise européenne. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pourrez réécouter cette émission, ainsi que sur le site là-bas.org, là-bas.org, où vous pouvez réécouter notre série sur la Grèce, par exemple. Et puis vous pouvez nous retrouver aussi sur notre page Facebook. À la technique aujourd'hui, Rémi Quincé et Pierrick Mossigny, Bertrand Chometon et Franck Aderer ont réalisé cette émission, assistés de Marina Touyez et Grégory Salomonovitch. Attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Chérie, pour ma robe noire, les chaussures noires ou les écrues?
Je ne sais pas, moi. Quand tu choisis des assiettes, carrées pour le carpaccio, oui, ovales pour le poisson, oui, oui, rondes pour le dessert, tu te poses pas de questions, tu te fais plaisir, tu harmonises.
C'est vrai, j'harmonise.
Et ben là, tu fais pareil. Tu harmonises.
Les arts de la table. C'est comme la mode, c'est bien quand ça change.
France Inter présente Hugo Cabret, le nouveau film de Martin Scorsese. Dans le Paris des années 30, il ne reste à Hugo, jeune orphelin, qu'un étrange automate que lui a légué son père.
Qui l'a fabriqué ?
Ce doit être un magicien.
Une rencontre mystérieuse va peut-être l'aider à découvrir son secret.
Pourquoi ma clé s'adapterait à la machine de ton père ?
Mais ce n'est que le début de l'aventure.
C'est extraordinaire.
Retrouvez Hugo Cabret, le nouveau film de Martin Scorsese, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. Au cinéma, le 14 décembre.
16h sur France Inter, on se retrouve demain, peut-être à 15h dans la basse où j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
Une première version du nouveau traité budgétaire européen négocié vendredi est sur la table. Elle sera finalisée d'ici la fin de la semaine, affirme Bruxelles cet après-midi. Dans un entretien accordé au Monde, Nicolas Sarkozy lui défend aujourd'hui l'accord. Il crée les conditions pour sortir de la crise, dit le chef de l'État, qui dans le même temps prépare également la France à la perte du triple A, synonyme d'emprunt aux meilleures conditions sur les marchés financiers. Ce serait une difficulté de plus, mais ce ne serait pas insurmontable, a déclaré Nicolas Sarkozy. Les agences de notation Moody's Standard & Poor's doivent rendre rapidement leur verdict. En attendant, les bourses européennes sont toujours orientées à la baisse aujourd'hui. Wall Street suit la tendance cet après-midi. Les investisseurs doutent de la capacité de l'accord européen à contenir efficacement la crise de la dette. Passé la révolution et les élections législatives, la Tunisie s'apprête à introniser son nouveau président. Les 217 membres de l'Assemblée sont réunis depuis quelques minutes. Sauf coup de théâtre, l'ancien opposant au régime Ben Ali, Moncef Marzouki, devrait être donc élu président de la Tunisie. Sciences Po va réformer son concours d'entrée en première année, le tout pour 2013. Les épreuves écrites se dérouleront avant le bac, en mars. L'admission directe avec mention très bien est donc supprimée. Une appréciation sur dossier sera créée. Il y aura aussi un entretien et une épreuve orale de langue étrangère. Le but, augmenter la diversification des profils des étudiants. Plusieurs centaines de policiers ont assisté cet après-midi aux obsèques du policier mort jeudi après avoir été blessé lors d'une fusillade à Vitrolles fin novembre. La cérémonie avait lieu dans l'hôtel de police de Marseille en présence de Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur. Des malfaiteurs armés se présentant comme de faux policiers se sont emparés aujourd'hui d'un camion de parfum. Le vol a eu lieu à la sortie d'un entrepôt à Mitry-Mory en Seine-et-Marne. Les malfaiteurs ont pris la fuite. Le butin lui s'élève à 100 000 euros. L'information est parue ce matin dans le journal Ouest France. Un colonel à la retraite, commandant de la Légion d'honneur, s'est suicidé en octobre dernier au pied du monument aux morts d'Indochine à Dinan. Les faits remontent à fin octobre donc. Dans un message, Robert Jambon dit avoir tiré sa dernière cartouche pour exprimer sa honte devant l'indifférence de nos responsables face au terrible malheur des Hmongs. Ancien d'Indochine, il avait tenté déjà depuis plusieurs années d'attirer l'attention sur le sort de cette minorité chrétienne et pro-occidentale, victime selon lui d'un véritable génocide depuis l'avènement de régimes communistes au Laos et au Vietnam en 1975. Un joueur de poker dépendant réclame aujourd'hui 100 000 euros de dommages et intérêts à l'État. Il lui reproche de ne pas lui avoir interdit de jouer au poker en ligne, et ce, alors qu'il s'était inscrit sur la liste des interdits de jeu du ministère de l'Intérieur. Ce joueur de 37 ans, originaire de Reims, s'est tourné vers le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui examinera sa demande jeudi. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet. Je vous donne rendez-vous pour des enregistrements en public du jeu des 1000 euros dans le Puy de Dôme, aujourd'hui lundi à Roya à 18h30 dans les salons du casino et demain mardi à Saint-Germain-l'Herme à 19h à la mairie. À très bientôt dans le Puy de Dôme.
Cette semaine, dans le Pont des Artistes, Isabelle Dordain reçoit hello, Charlie Winston, The State of Mind et Jean-Jacques Milteau.
Rendez-vous pour l'enregistrement de l'émission mercredi à partir de 18h devant la porte B de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter. La différence.
Je vous cède la place, Frédéric Lodéon. Bonjour.
Bonjour Laetitia. Carrefour de l'Odéon. Tous. Noël approche, alors il y en a qui n'aiment pas ça du tout, puis il y en a plein, évidemment, qui sont non seulement obligés, mais enclins à chercher des cadeaux. Alors tous les disques qu'on passe dans cette émission peuvent être des cadeaux, bien sûr, mais il y a des objets parfois qui attirent l'œil et l'oreille, bien sûr, comme par exemple Bach, Jean-Sébastien Bach, La chair et l'esprit, publié chez Alpha, et c'est un très joli volume, d'une part, avec des textes, dont un texte magnifique de Gilles Cantagrel. Gilles Cantagrel, c'est le meilleur connaisseur de Jean-Sébastien Bach au monde, à mon avis. Il sera avec nous lundi prochain, ne ratez pas cette émission. Il m'a dit au téléphone d'ailleurs, Bach, ça fait du bien à Noël. Bah oui, mais même en général, de toute façon. Et puis il y a d'autres textes très intéressants, et surtout des disques, 6 disques. Et le titre dit bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire la chair et l'esprit. On sait que Jean-Sébastien Bach est le compositeur peut-être un des plus intellectuels, en tout cas, parmi ceux qui avaient la tête bien faite. Mais quand même, c'était un homme très charnel. On répète toujours la même chose, mais enfin c'est vrai, 20 enfants. Une certaine corpulence, un appétit des choses, non seulement de l'esprit, mais aussi de la bonne vie. Et donc c'est un très joli cadeau publié chez Alpha. On trouve donc des disques dedans. 6 disques, voici, tirés de cet ensemble, le presto d'un concerto pour clavecin en fa mineur de Jean-Sébastien Bach. Thank you. Presto du concerto pour clavecin en fa mineur de Jean-Sébastien Bach par Céline Frisch en solo, qui joue un clavecin allemand, enfin de type allemand, réalisé par Philippe Humeau. Mais c'est le type qui compte, bien sûr, c'est le genre et non pas le pays de fabrication. Et avec elle, l'ensemble Café Zimmermann. Donc ça fait partie des disques proposés. Il y a de la musique sacrée, de la musique instrumentale, des grands effectifs profanes, du clavecin à l'orgue, etc., etc. Un livre disque alpha, 6 disques quand même, et de jolis textes et une très belle couverture. Donc, beau cadeau de Noël. On en reparle avec Gilles Cantagrel. On parlera d'autres choses aussi, parce que Gilles a écrit énormément sur Bach, bien sûr. On dirait qu'il l'a connu, alors c'est très simple. Il sera là lundi prochain. Et un cadeau de Noël fraîchement sorti aussi, et puis clairement déclaré, puisque le Concerto Köln nous propose cet album de Noël chez Berlin Classics. Ben, c'est charmant. Un seul petit reproche, il n'y a pas de texte en français. Ben voilà, on a perdu, on n'a pas encore perdu le triple A, mais là, on a perdu les lettres pour nous, les Français. C'est écrit, mais enfin, il y a un texte assez succinct de toute façon. C'est écrit correctement en anglais. On peut généralement comprendre le principal. Et puis, il y a même qui parle.